Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 21e journée de notre belle Ligue 1 Uber Eats avec beaucoup de matchs hyper intéressants. On va se concentrer sur deux matchs en particulier, deux matchs qui sont très tendus. D'un côté, on aura le PSG contre le LOSC et de l'autre côté, on a Nice face à Monaco. Et pour m'accompagner et parler de ce match et de toutes les rencontres, j'ai Thibaut avec moi. Thibaut, comment tu vas ?
Salut Dusty, salut Baptiste, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de revenir sur Stadium Ligue 1, voilà, pour parler du plus beau championnat du monde, comme on peut le dire, voilà.
Bah, bienvenue à toi et enfin bah, la deuxième personne, Baptiste, ça faisait un petit moment. Baptiste, comment tu vas ? Toujours plaisir de t'avoir avec nous.
Ouais, salut Des, salut à Tim, salut à tout le monde. Bah écoute, très content, première en 2024. Non, plutôt content d'être là. Deux beaux matchs à débriefer et aussi un petit tour des stades après. Donc non, très beau programme en perspective.
Exactement, première en 2024. Donc on va commencer par le premier match. Allez, on va commencer par Nice-Monaco. Nice-Monaco, c'est deux équipes qui sont aujourd'hui en difficulté, on peut le dire, hein, qui n'ont pas le rythme qu'ils auraient dû avoir, même si Nice est deuxième parce qu'elle a pris beaucoup d'avance en ce début de saison. On voit que récemment, voilà, elle a du mal quand même à enchaîner les victoires. Sur les six derniers matchs, elle a eu trois victoires, deux défaites et un nul. Notamment son dernier nul, c'était face à Brest 0-0, où elle s'est même fait très très peur à l'extérieur, elle a failli perdre le match. Et de l'autre côté, ben on a Monaco, pareil, Monaco, c'est l'attaque de folie, mais aussi le gruyère dans la défense. Monaco qui n'enchaîne plus, qui a du mal à gagner, qui n'a pas gagné depuis trois journées. Donc Monaco, c'est deux victoires, deux défaites et deux nuls. Les deux nuls qui sont arrivés là sur les deux dernières journées de Ligue 1, donc notamment face à une belle équipe du Havre, hein, le Havre qui fait plaisir, mais on en reparlera pendant notre tour des stades. Fort heureusement, bon, Nice, ils ont pas encore récupéré tous leurs joueurs, hein. Bon, ça me fait mal au cœur de le dire, hein, comme si certains le savent pas, je supporte la RDC qui se sont fait éliminer, mais bon, c'est pas grave, on passe. Dans tous les cas, ils n'ont pas récupéré tous leurs joueurs puisqu'on a toujours Mofi qui est à la CAN. Côté Monaco, eux, ils ont récupéré Minamino qui jouait notamment en Coupe de France jeudi. Mais de manière générale, ils ont quand même, allez, on va dire, un effectif qui est quasi complet, qui est plutôt compétitif. Baptiste, on va commencer par toi. Baptiste, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Qu'est-ce que tu attends de ces deux équipes ? Comment tu vois ce match ? Est-ce que on va se retrouver dans un match fermé où Nice va être dans l'attente et attendre que Monaco se dévoile, hein, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est très offensive, où on aura voilà deux équipes qui vont se rendre coup pour coup ?
Ouais, Dusty, déjà super affiche parce que c'est vraiment deux oppositions de style où t'as un Nice, bah, qu'on qualifie de temps en temps un peu défensif. Bon, c'est assez réducteur de dire ça quand t'es deuxième de Ligue 1, mais concrètement, qui a une grande base défensive, qui a une possession plutôt défensive. C'est super intéressant ce qu'ils font surtout sans ballon, de plus en plus avec quand même, hein, depuis début 2024 là, surtout le dernier match en coupe. Donc et un Monaco, comme t'as dit, qui est très très fort offensivement mais qui laisse certains boulevards défensifs. Donc non, plutôt une opposition de style très intéressante. Et globalement, moi, comment je vois le match, je vois que globalement, c'est qui imposera le style à l'autre. C'est-à-dire que si on voit un match qui va un peu des deux côtés, ce qui est capable aussi de faire Nice, hein, sans concéder d'occasion, ils sont capables de faire un match un peu ping-pong. Mais globalement, voilà, si on a un match plutôt ouvert, je vois bien Monaco prendre l'avantage. Après, si ça reste un peu plus resserré, si Nice garde beaucoup la balle d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même une possession, comme je disais, défensive, qui est très très intéressante, qui use un peu l'adversaire. Et Monaco, comme tu disais, est très faible défensivement. Dès que ça défend un peu dans leur moitié de terrain pendant 5-10 minutes, souvent ça lâche très vite. Donc ouais, c'est un match très intéressant et plutôt indécis, et en sachant qu'historiquement quand même Monaco est très fort à Nice, et donc c'est un match plutôt indécis, et c'est celui qui imposera son style qui gagnera, parce que là on a vraiment deux styles complètement différents et bien bien distincts.
Ouais, complètement. Et puis, on le rappelle, cette année, pour l'instant, Nice, si je me trompe pas, n'a jamais perdu à domicile, hein. L'ensemble de leurs défaites était exclusivement à l'extérieur.
C'est que des victoires à domicile, Nice, quasiment. Lens,
Ouais.
Reims, Toulouse, Marseille, ceux qui passent, ils perdent. Donc c'est simple.
C'est ça. Donc c'est une équipe quand même qui, on va dire, qui défend bien son fort, hein, et qui surtout qui sait gagner. De l'autre côté, on sait aussi que Monaco quand même se débrouille bien à l'extérieur. Elle a du mal quand elle joue au Stade Louis II. Après, on va pas revenir dessus, hein, Monaco, c'est comme s'ils jouaient toujours à l'extérieur, hein, même quand ils sont à Monaco. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Monaco s'en sort quand même un peu mieux à l'extérieur. Monaco, comme je te le disais, Tibbs, qui a récupéré l'ensemble de son effectif. Toi, cette équipe niçoise, hein, puisqu'on va, on va commencer avec cette équipe niçoise, tu penses que voilà, c'est. Alors, j'ai pas envie de dire le match référence, hein, parce qu'il y a encore d'autres journées derrière, mais Monaco, c'est quand même un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Mais tu penses que voilà, si demain Nice fait un bon match face à Monaco, c'est le match un peu qui les relancera dans ce championnat, parce qu'ils ont, ils tâtonnent, ils galèrent un peu là en 2024, fin 2023, début 2024, ils galèrent un peu. Toi, t'en penses quoi de ce match?
Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais enfin, c'est vrai que Nice là, ils sont un peu en demi-teinte. Après, on peut pas trop leur en vouloir car ils ont perdu. Bon, il y a pas Mofy, il y a pas Boga
C'est
devant.
ça.
C'est un peu énervant pour eux, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont deuxièmes et qu'il faut qu'ils creusent un peu, qu'ils mettent un peu d'écart sur le troisième. Bon, ils sont toujours deuxièmes avec une petite avance, mais faut qu'ils fassent attention. Là, c'est deux salles, deux ambiances. Je pense que Monaco, il récupère Minamino et Camara qui revient. De l'autre côté, eux, Nice, les Niçois récupèrent pas leurs joueurs. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Je dirais plus, je verrais plus un petit avantage quand même pour Monaco, mais à voir. Sinon, après, voilà, comme tu dis, Nice, chez eux, ils perdent jamais. Enfin, ils perdent quasiment jamais. C'est que des victoires en 2024. Donc voilà, il y a que 4 points qui les séparent de Monaco à Nice. Donc, je vois bien Monaco repartir de l'avant et récupérer 3 points justement en plus sur Nice. Ils vont avoir à cœur je pense, de bien faire. Donc Nice qui est deuxième, ils sont juste seulement à 4 points Monaco alors qu'ils sont cinquième. Donc il suffit qu'ils gagnent ce match pour revenir à pas grand-chose quoi. Donc on va voir où la mentale est, dans quel camp elle est. Donc ça va être intéressant aussi de voir ça, de voir Monaco qui peut faire face à cette équipe de Nice sans Mofy et Boga. Après attention aussi à Monaco car à l'extérieur c'est souvent solide aussi. 5 derniers déplacements sans défaite. Donc j'espère qu'on va avoir une belle rencontre dimanche soir. Voilà là, et puis surtout que la dernière fois que Monaco ils avaient gagné, je m'en rappelle, ils avaient gagné, c'était Monaco qui avait gagné. Non, c'était Nice qui avait
C'est
gagné
Nice qui a
avec un but.
gagné au match aller.
Ouais. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de prendre leur revanche, je pense. Donc après on va voir ce que ça va donner. Après voilà, très très énervant pour les Aiglons qui n'ont pas leurs deux joueurs devant. Surtout qu'en plus ils jouent même pas. Enfin, je veux dire, Mofy, il est sur le banc de touche quand je le vois. Enfin, le Nigeria jouer là, il rentre, mais pas longtemps. Donc bon, à voir. Mais je suis très 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 pressé de voir cette rencontre en tout cas. Je
Ok.
dirais un petit avantage pour Monaco pour moi, mais après, à voir.
Parce qu'il y
Ouais,
a un
je
truc.
rajouterais.
Ouais, vas-y,
Non,
vas-y, justement, je
je
voulais
t'en
te
prie, je t'en
laisser,
prie.
Baptiste. Non, non, vas-y, vas-y.
Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que bah, après, faut pas quand même oublier que c'est un derby, un derby entre les deux équipes.
Oui,
Et
c'est un derby.
historiquement, Et historiquement, Nice, ils se mettent beaucoup la pression, surtout quand ils jouent chez eux contre Monaco, et souvent ça ne leur réussit pas. Et en plus, plus globalement, dès que le match il va pas dans leur sens, c'est-à-dire que je crois, sans me tromper, je sais pas si t'as la stat de Sty ou même Tibbs, je crois qu'à chaque fois que Nice a encaissé le premier but, ils ont perdu le match. Et globalement, ils ont du mal à chaque fois que le match il démarre mal, à
Il
tenir leurs
durcit,
nerfs. Je pense à Todibo qui s'énerve à chaque match où Nice est mené. Super joueur Todibo, mais de temps en temps beaucoup de mal à tenir ses nerfs. Ils ont du mal à renverser la vapeur. Et bon, dans le dernier podcast, j'avais été assez sévère sur Nice, qui globalement en plus avait gagné le match d'après, avait gagné assez facilement contre Lens. Mais c'est une très belle équipe, je dis pas. Juste quand ça se, il, tant que le match restera 0-0, que ça sera serré,
ça fera leur affaire, ça fera leur affaire.
je vois un très gros avantage pour Nice. Plus le match mais s'ils prennent le premier but contre Monaco, ils vont laisser
Très
peut-être deux trois
compliqué.
espaces à Monaco, ouais, avec Golovin, avec Balogun. Je sais pas s'il commencera vu qu'il a commencé le match en Coupe de France. Donc je sais pas s'il commencera, mais laisser des espaces à Monaco, c'est jamais une très bonne idée. Donc peut-être que le début de match va avoir une importance. La pression, on sait que les supporters, c'est un match quand même qu'ils attendent le plus, je pense, dans l'année, les supporters niçois. Faut voir comment gère Nice toute cette pression, cette jeune équipe. Donc non, ça c'est quand même intéressant à suivre ça, parce que je pense que ce match-là, la pression est côté niçois.
Et pour
Ouais,
confirmer ce
parce
que tu
que
as dit,
juste une
excuse-moi,
dernière phrase.
attends, juste te coupe pour confirmer ce qu'il
Vas-y.
a dit, Baptiste. Trois matchs, donc Rennes, Le Havre, Nantes, à chaque fois que l'équipe adverse a marqué la première, Nice n'a pas gagné. Il y a eu trois matchs, les trois matchs, c'était exactement le même scénario. Nice encaissait le premier but et après ils sont complètement délités, beaucoup de nervosité, surtout face au match. Il me semble que c'était face au, je sais plus c'est quel match où il y a même Todibo qui se fait expulser. Je sais plus c'était à quel match. Je crois que c'était Nantes ou
Au
Le
Havre,
Havre.
c'est
Le
au
Havre
Havre.
où il se fait expulser. Donc ouais, pour confirmer tes dires et pour confirmer autre chose, c'est vrai que Nice, quand elle joue contre Monaco chez elle, elle a quand même beaucoup de mal parce que en 2022, à domicile, elle avait perdu 1-0.
Ouais, mais ils ont que perdu. Nice
C'est ça.
contre
En
Monaco, ils ont fait mal en
2021,
coupe là.
nul. En Coupe de France, ils avaient aussi perdu à domicile. En 2020, ils avaient perdu aussi à
Ils ont que
domicile. Donc,
perdu. Ouais.
c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à domicile, contre Monaco. Vas-y, je te lance, Thibaut.
C'est souvent un avantage Monaco, effectivement. Généralement, c'est des matchs où il y a au moins deux buts. Donc, je pense on va avoir du spectacle. Enfin, du moins, j'espère. Mais oui, moi, je dirais, comme je t'ai dit, avantage Monaco. On dirait qu'ils ont un avantage psychologique sur les Niçois. C'est ça qui est fou. Quand je vois les résultats, enfin, je savais pas autant. Que Monaco avait des victoires sur Nice, mais au final, c'est vrai que Monaco gagne souvent contre Nice. Donc ça, c'est psychologiquement, ça doit jouer quand même. Et je sais que les supporters niçois, ça les rend fous parce que c'est quand même un derby et ils aiment bien les derbies contre Monaco. Donc ça va être chaud et ça va être assez tendu, ouais. Parce que si Monaco gagne, ils reviennent pas loin. Donc j'ai hâte d'être dimanche soir pour voir ça.
Bah, surtout, en plus, il y a un truc que tu disais, Baptiste, au début, c'est que Nice essaye de jouer un peu différemment, de s'ouvrir un peu plus, d'être un peu plus offensive, un peu moins attentiste. Mais depuis que Mofy est parti, alors je parle en Ligue 1, depuis que Mofy est parti à la CAN, t'as quand même eu quatre matchs. Donc Rennes contre Nice, ils perdent 2-0, ils marquent pas. T'as Nice-Metz, c'est Guessant qui marque sur penalty.
Le
Et contre
petit Nguessan, il est
Brest,
pas mauvais. Le petit Nguessan devant, il est pas mauvais.
ouais, et contre Brest, il
Nguessan
marque
l'aborde
pas.
après. Ouais. Est-ce que ça va être suffisant?
Parce que là, offensivement, devant, ils ont quoi? Nguessan, Laborde et Shaw. Ça fait un peu léger quand même, non?
Ouais, c'est un
Vous
peu
trouvez pas?
lèche, c'est un peu lèche, c'est un peu lèche. Après, ouais.
Parce que après, il y a personne d'autre qui marque. Hein. Sanson derrière, ça marque pas trop. Thuram, ça marque pas trop. T'as le petit Ntchaïminé qui a marqué en coupe. Mais sinon en Ligue 1 ça marque pas trop. Moi c'est le truc qui m'inquiète un peu avec Nice en ce moment, dans le sens où Offensivement, c'est pas folichon et ils ont perdu l'une de leurs qualités premières, qui était une grosse solidité pardon, défensive. Alors c'est toujours l'une des meilleures défenses de Ligue 1, hein. Même la meilleure défense de Ligue 1 si je me trompe pas. Mais ouais, avec 11 buts. Mais je sais pas, moi il me, moi ça me, enfin pareil, je suis un peu comme Thibaut, avantage Monaco et du coup on va enchaîner sur Monaco. Je vais te lancer sur Monaco, Thibaut. Monaco, c'est quand même l'équipe, c'est du football champagne, ça va dans tous les sens, que ce soit en attaque, en défense. Ils mettent autant de buts qu'ils en prennent. Est-ce que, enfin, c'est peut-être pas ça aussi, enfin, le gros problème de Monaco aujourd'hui, quoi. Comment garder un score, en fait?
Ouais, oui, comment garder un score, mais bon, après, ils ont quand même l'expérience, ils ont l'avantage, enfin, ça joue bien, ils ont pas de grosses coupes à jouer, la Ligue des Champions, ils ont pas ça à jouer, je peux te dire, enfin, ils sont libérés, quoi, Golovin, il revient à son meilleur niveau, devant, ils ont quand même toujours du lourd, hein. Je veux dire, là, Balogun, il y a Balogun, il y a, pour moi, c'est quand même fort, Golovin, Minamino qui revient, je veux dire, c'est quand même, ça reste quand même solide. Ben Yedder qui va sans doute jouer aussi, je pense. Enfin, je veux dire, c'est pas des peintres. Je pense que ça a toujours été l'ADN de Monaco, avoir un collectif assez solide. Enfin, moi, ce qui propose, moi, ça me. Alors oui, ils sont cinquième, mais ils sont pas loin. Comme tu dis, effectivement, ils sont cinquième, mais ils sont pas loin. Moi, dans mes stats, je vois qu'ils sur les 5 derniers matchs, là, ils perdent pas à l'extérieur. C'est souvent très très. Ils aiment bien l'extérieur, Monaco. Donc, je me dis, là, c'est le match, c'est les 3 points qu'il faut prendre dimanche soir. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça, et je vois mal. Au niveau, je pense qu'ils vont le faire à l'expérience, et je les vois mal laisser des points à Nice, surtout qu'en plus c'est un derby. Enfin, je veux dire que Golovin, Ben Yedder, tout ça, ils seront prêts. Et voilà, ils seront prêts. C'est des mecs qui ont l'habitude des, ils ont déjà fait des grands matchs. C'est la pression, c'est pas ce qui leur fait peur à mon avis. Moi, je vois que tous les voyants sont au vert, et je vois bien. Bon, là, bon, ce soir ils jouent contre Rouen. J'ai vu qu'il y avait un partout à la 80e. Bon, voilà, mais je pense qu'il pense déjà au match. Alors peut-être qu'il la joue pas la coupe, on ne sait pas, mais il pense déjà à dimanche soir, hein, sûrement. Voilà.
Et toi, Baptiste, t'es du même avis que Thibaut dans le sens où plutôt confiant par rapport à Monaco, tu penses que ouais, en soi ça va passer, ils ont l'équipe pour?
Ouais, non, j'ai un avis un tout petit peu différent dans le sens où je trouve vraiment que défensivement ça clique pas du tout et ça fait un petit moment que ça dure. Je trouve que défensivement c'est très très compliqué, c'est très très compliqué Monaco. Il arrive pas du tout à trouver la solution, que ça soit les hommes, que ça soit même la tactique.
Derrière, ouais,
Donc
derrière.
il arrive vraiment pas à trouver la formule. Ils prennent des trans, ils sont capables de prendre des transitions, ils sont capables de défendre. Même en bloc, ils ont du mal à défendre. Donc non, non, moi je suis un petit peu plus inquiet que vous concernant Monaco. Je vois même bien une équipe de Nice qui a beaucoup de mal offensivement. Bah, se régaler des espaces parce que Nguessan, l'apport de tout ça, bon, faut pas non plus leur laisser pas mal d'espace, et ils défendent souvent un contre un Monaco. Donc je suis un petit peu plus inquiet que vous. Moi je trouve que ça clique pas beaucoup. J'ai vu le dernier match contre Le Havre, ça cliquait pas, mais bon, c'était un match un peu compliqué. Moi j'aime les matchs à 13h, les matchs de dimanche 13h, des fois bon, j'ai des fois un peu de mal. C'est rare qu'on voit des super matchs à ces horaires-là, donc je leur laisse un peu le bénéfice du doute. Et ouais, Le Havre a beaucoup défendu sur ce match-là, donc ils avaient un peu du mal. Moi je suis un petit peu pas inquiet parce que je trouve quand même que c'est l'équipe la plus talentueuse de Ligue 1 après Paris, Monaco. Donc ça peut cliquer devant. On l'a vu même à 10 au
Marseille.
Vélodrome. Et ouais, ils ont vraiment fait du mal, même à 10, entre Golovin, Ben Yedder et à Cliouche. Ils leur ont fait vraiment du mal à Marseille. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est une équipe vraiment déséquilibrée et qui trouve toujours pas la formule derrière. Et sincèrement, si ça continue comme ça va être très compliqué de faire podium. S'ils trouvent pas une solution, s'ils trouvent pas une solution derrière, parce que tu peux pas en prendre deux, trois contre Reims.
Après c'est vrai qu'ils sont sur deux, ils sont sur deux nuls. Donc c'est sûr qu'ils sont un peu en mode, on va dire en mode stand-by, tu vois, ils avancent, mais pas aussi vite qu'ils voudraient, je pense. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un petit problème derrière, hein, à rectifier. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé la bonne solution, hein, parce que
En 2024, ils n'ont pas gagné, hein. Ah, ils n'ont pas gagné en Ligue 1, hein, pour l'instant en 2024. Donc, non, mais bon, ça veut rien dire pour le match de dimanche,
oui,
je veux
c'est
bien.
pas.
Mais sincèrement, moi, je suis un peu plus inquiet, de façon globale, pas que sur ce match-là. Je suis un peu inquiet s'ils ne règlent pas leurs problèmes défensifs. Et c'est toute une animation qui est un peu plus. C'est toute une animation. Je suis même pas sûr qu'il faut pointer un ou deux joueurs. Je sais que Maripane est très critiqué et sûrement à juste titre. Mais c'est plus globalement, je trouve qu'il laisse trop les joueurs, trop les défenseurs en un contre un à défendre de très grands espaces. Maripane, Kerrer, je suis pas, voilà,
C'est
ces
vrai
joueurs-là,
qu'ils
on les connaît.
n'ont pas encore gagné, c'est
Pas
vrai,
terrible, quoi.
en 2024, à part, bon, ils ont fait match nul contre l'OM, ils gagnent contre Odense, bon, ok. Ils gagnent contre Lens, pareil, au tir au but, ok. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné en 2024, donc
Bah, et
c'est
surtout,
le moment ou jamais, quoi, d'allumer la
il y
mèche.
a un autre truc à ajouter, puisque Monaco, quand même, sur les équipes qui sont devant Monaco, donc PSG, Nice, Brest et Lille pour l'instant, la seule équipe que Monaco a battue, c'est Brest 2-0 au match aller. Sinon, ils perdent 2-0 contre Lille, ils ont perdu 1-0 contre Nice, ils perdent 5-2 contre le PSG. Moi, je suis pas totalement confiant par rapport à Monaco, dans le sens où pour moi, ils ont vraiment une défense en carton. Alors, ils ont un très bon gardien. Je pense que c'est ce qui leur sauve aussi de pas prendre de grosses valises.
Ah oui, c'est sûr.
Mais Monaco, c'est quand même, c'est l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1. Et on dit pas, c'est pas genre, ils ont pris, ils ont un ou deux buts de plus que les autres ou des choses comme ça. Monaco, ils ont une défense qui est au niveau de Metz ou Reims, quoi. Ils ont pris 28 buts, Metz en a pris 31, Reims ils en ont pris 27. Enfin, il y a des équipes qui sont moins bien classées que Monaco qui ont pris moins de buts, comme Le Havre par exemple qui en a pris 24.
Toulouse, Montpellier, tu peux en citer, hein. Même Metz
Ouais,
qui a 31,
voilà.
pas
C'est
loin de
ça,
Metz.
donc il y en a vraiment beaucoup. Donc moi je suis vraiment inquiet à ce niveau-là du côté défensif de Monaco, surtout qu'ils sont partis chercher Kerrer. Enfin, je sais pas, on a vu ce que Kerrer a fait au PSG. S'il
On
est
connaît.
parti, il y a une raison. Je sais pas pourquoi ils sont allés le chercher, mais bon, bref. Donc ouais, non, pas totalement confiant par rapport à Monaco. Du coup, on va passer bah nos prédictions de score de ce match-là. Alors, juste pour vous donner allez, on va dire une petite indication au niveau des cotes. Nice est coté à 2,35, Monaco 3,15 et le nul à 3,40. Vas-y, on va commencer par toi, Thibaut. Toi, tu penses quoi du score du match, tes prédictions?
Moi, je vois un 2-1, 2-1 pour Monaco et un but de Minamino.
Ok.
Voilà.
Ok, t'as d'autres buteurs en tête, non, pour les deux
Voilà, après,
Monaco?
forcément Ben Yedder, hein, Ben Yedder ou Golovin. Hein, voilà, on sait jamais sur un petit penalty ou un truc comme ça, mais oui, Ben Yedder ou Minamino, hein, des deux devant, là, je vois.
D'ailleurs, Ben Yedder qui s'est quand même bien imposé, qui a réussi à mettre Balogun. Bon, Balogun était absent deux matchs pour
Blessé,
blessure. Mais bon, il le met et il se débrouille bien. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant. Mais
Non, mais c'est
bon,
bien parce que ça, en fait, il permute entre les deux Balogun, Ben Yedder, puis ça permet aussi à Ben Yedder de souffler un petit peu. Il faut dire qu'il est quand même, enfin, il devient vieux quand même, Ben Yedder, donc ça le
t'es
permet
dur,
aussi de faire.
hein? Ben Yedder, c'est quoi,
Tu l'as
32 ans, un truc comme ça?
Ah ouais, je le voyais plus vieux. Bon.
Ouais, non, t'es dur, hein?
Bon, en tout cas, 2-1 pour Monaco, pour moi.
Ok. Baptiste, tes prédictions.
Un petit flash info, je sais pas si on peut le dire de Steam, mais là Monaco vient de se faire éliminer au péno, hein, sur contre Rouen.
Ah bah
Au
voilà.
moment où on parle, au moment où
Au
on parle,
péno.
il vient de se faire éliminer au péno contre Rouen, donc contre une nationale. Là, moi, je suis, voilà, le ressort psychologique. Comment ils vont se remettre de cette défaite? Alors, je sais qu'à Monaco, c'est quand même particulier vu les supporters, hein, je dis pas, mais toujours, c'est toujours, on est toujours dans une bulle. Mais là, ça peut changer quand même pas mal de choses parce que bon, se faire éliminer contre une nationale, comment tu réagis après, c'est très compliqué.
Psychologiquement, c'est vrai que c'est pas cool. Hein.
Ouais. Donc, mais moi globalement, bon, je sais pas si ça change quelque chose, mais moi je vois bien quand même Nice rester sur leur, voilà, je vois le même score que Tibbs, mais dans le sens inverse, je vois bien Nice avec des espaces, comme je pense qu'ils vont marquer le premier but Nice, je vois bien une victoire 2-1 de Nice, voilà, un match très serré. Un match plutôt intéressant. Le match aller était comment dire, était très très intense. J'ai pas eu trouvé qu'il y
Monaco
avait
passe
beaucoup
à côté.
d'occasions de
Hein.
ça, mais très ouais. Mais bon, ils ont deux pénaux quand même à Monaco, si je me rappelle bien.
C'est
Donc
ça,
je vois à peu près le
exactement.
même match. Je vois à peu
Ah,
près le
c'était un
même
match tendu.
match.
Hein.
Ouais. Et voilà. Ben, je vois à peu près le même match et avec peut-être un peu plus d'occasions. Et deux trois contres que joue bien Nice et voilà une victoire 2-1 un peu à l'arrache une victoire 2-1 un peu à l'arrache de Nice.
Ok.
Voilà. Et les buteurs, je te dirais, je vais pas être très original, mais Ben Yedder côté Monaco et Nguessan Laborde Nguessan Laborde. J'ai beaucoup aimé Nguessan à Brest. Très peu servi, mais assez intéressant, assez dangereux. Donc, ouais, je le vois bien concrétiser une semaine après. Donc,
Ok.
voilà.
Ok.
Lui c'est vraiment pas mal, Nguessan. Depuis que Mofy il a un peu plus de temps à jouer, j'aime bien aussi ce petit joueur, Nguessan.
Ouais, il profite bien de son temps de jeu. Moi, je vais faire le Suisse, hein. Je vais me mettre entre vous deux. Moi, je pense que ça va finir en match nul.
Ouais, match
Parce
nul aussi,
que,
pourquoi pas.
ouais, bah, le truc, c'est que je vois pas un Nice exceptionnel offensivement. S'ils arrivent à mettre un but, voilà, c'est bon, c'est bien pour eux, ils ferment un peu la boutique. L'autre côté, je vois un Monaco très bon offensivement, mais défensivement catastrophique. Et encore, je trouve qu'ils ont vraiment un équilibre bizarre Monaco, parce que même quand
Ouais, c'est
tu regardes
ça.
le dernier match face au Havre, ils ont quand même beaucoup d'occasions, que ce soit Akliouche, Ben Yedder, enfin. Ils ont loupé beaucoup d'occasions, donc moi je vois le 1-1 Nice-Monaco avec ouais, un but de. Allez, on va pas être original, un but de Laborde d'un côté. Et par contre, je verrais bien plutôt un but de Golovin, puisque ça fait longtemps qu'il a pas scoré l'animal. Ok, nickel, nickel. Bah, merci à vous. On va passer au match suivant maintenant, un autre match très compliqué de ce week-end. Donc le PSG qui va affronter Lille. Donc on se souvient, le PSG au match aller avait fait match nul à Lille, hein, avec un but de Jonathan David à la toute dernière minute de la rencontre, alors que le PSG se voyait déjà repartir avec les 3 points. Le PSG, on va dire, domine le championnat. Il fait le taf, il continue à gagner, ils enchaînent les victoires. Un peu d'équipe arrive à suivre. Le rythme du PSG, hein, sur les 6 dernières rencontres, c'est quand même 4 victoires et 2 matchs nuls. Lille, mine de rien, c'est pas l'équipe la plus flamboyante, mais elle perd quand même assez peu. Sur les 6 derniers matchs, c'est 3 nuls, 1 défaite et 2 victoires, hein, donc ils ont notamment gagné la semaine dernière en championnat face à Clermont, hein, donc 4-0, il me semblait, en plus c'était 4-0 à la mi-temps. Voilà, c'était réglé, ils avaient fermé la boutique. Merci, au revoir. Normalement, pas d'absent, enfin, pas d'absent. Du côté du PSG, bien sûr, il y a les absents habituels, que ce soit Kimpembe ou Skriniar. Pendant un moment, Kolo Muani était certain, mais bon, visiblement, ça devrait aller.
Ouais,
Lee.
il est malade,
Voilà.
je vois malade pour le moins limite, il devrait être là, je pense, logiquement.
C'est ça. Lee et Mbappé plutôt incertain, on ne sait pas encore. Alors Mbappé, on a vu qu'il a reçu un très violent coup en Coupe de France. Hein. Ça fait toujours peur, hein, supporter ou pas, ça fait toujours peur de voir un joueur subir ce genre de choses. Voilà. Après, voilà, Nuno Mendes qui est en phase de reprise. Après, on a les retours d'Achraf Hakimi qui est revenu de la CAN et qui est joué en coupe. Hernandez qui était suspendu. Barcola et Dembélé qui reviennent aussi dans le groupe et qui avaient joué notamment en coupe. Côté Lillois, Pareil, on a le retour de Boadi, mais bon, toujours les absences de Diakité, Caballero, Umtiti et Illich. De manière générale, Lille, c'est quand même une belle équipe avec de très beaux joueurs. On aura le temps de reparler de Zegrova ou encore un Jonathan David qui fait un très bon début de saison 2024, hein, qui a marqué 3 buts en championnat pour l'instant en 4 rencontres, il me semble. On va commencer par toi, Baptiste. On va commencer par le PSG puisque c'est l'équipe qui reçoit. C'est vrai que le PSG est plus le temps avance, plus on a du mal à lire ce PSG, à comprendre ce PSG. Toi, qu'est-ce que t'attends de cette équipe du PSG? Est-ce que tu penses que c'est un peu le... Surtout qu'il y a la Ligue des Champions qui arrive mercredi. Est-ce que tu penses que c'est le match piège, le match que voilà, les mecs ont déjà la tête à la Ligue des Champions et c'est le match bah, qui est écrit et qu'ils vont perdre?
Ouais, de façon générale ou surtout sur ce match, Dusty?
Ce match-là.
D'accord. Ouais, globalement, oui, c'est un match un peu piège. Enfin, piège, non. Enfin, quand tout le monde sait qu'il est piège, je le vois plus trop le piège, si tu vois ce que je veux dire.
Exactement.
Ouais, mais globalement, alors, j'ai une idée assez précise. C'est comme ça que je l'interprète. J'interprétais le match de Brest comme la répétition générale de la Sociedad. Et là, je le vois un peu plus tourner, sachant qu'il a 8 points d'avance et en tête du championnat. Donc, je le vois faire un peu plus tourner, tout en essayant de gagner le match. Hein, je dis pas parce qu'il y a quand même des joueurs compétitifs. Donc, ouais, un match plutôt piège. Mais de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, de jouer cette équipe de Lille, qui, comme chaque équipe qui joue le PSG, a pas grand-chose à perdre au Parc des Princes, qui va jouer son jeu. De toute façon, ça pouvait être que compliqué. Donc ouais, je vois une équipe plutôt remaniée du PSG. Souvent, quand qui dit équipe remaniée, dit bah, pas une grande qualité collective. Donc ouais, je suis plutôt inquiet pour le PSG, surtout en début de match, le temps de se mettre en route, le temps de comprendre. Donc je vois un début de match assez compliqué du PSG et pas mal de turnover qui fait que ouais la sauce ça va avoir du mal un petit peu à prendre et au fil du match rentrer tranquillement dans la rencontre. Mais ouais, match quoi qu'il arrive compliqué contre une belle équipe. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur Lille. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Lille, même sur ce match-là, juste sur le match précédent. Donc non, non, ouais, c'est un match très très indécis. Hein. Pour le coup, on parlait de celui de Nice Monaco, pardon. Et celui-là, il a encore plus parce que voilà, PSG 4 jours après, ils ont l'échéance la plus importante de leur saison. Donc ouais, c'est un match vraiment pas simple à aborder côté parisien.
Ok. Comme il dit, hein, Baptiste, c'est vrai que côté parisien, cette équipe, enfin moi personnellement, hein, j'ai un peu de mal avec cette équipe, surtout ces derniers temps, où on voit qu'elle a du mal en fait à produire une prestation de qualité pendant 90 minutes. Alors on connaît ses manques, hein, on le voit, on sent qu'il y a c'est assez friable au milieu de terrain et même défensivement, c'est une équipe qui prend quand même beaucoup de tirs. Ouais, qui prend beaucoup de tirs en Ligue 1, on compte à peu près 250 tirs pour l'instant, à peu près, hein, surtout sur ces 20 premières journées, ce qui est assez énorme, hein. Le PSG se classe par exemple derrière une équipe comme Lyon qui a concédé 253 tirs, hein, pour 80 tirs cadrés pour le PSG et 92 pour Lyon par exemple. Donc ils concèdent quand même beaucoup de tirs et surtout ils ont ce côté friable. Où ils ont du mal à tenir le match en entier. Toi, Thibaut, tu t'attends à quel match du PSG? Et je te repose un peu la même question. Hein. Bon, forcément, comme dit Baptiste, c'est plus un match piège maintenant qu'on sait que le piège est là. Mais voilà, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que t'attends du PSG sur ce match-là?
Non, non, sur ce match, ils vont être, je pense qu'ils vont être sérieux parce que c'est quand même une petite répétition avant le grand soir Champions League contre la Real Sociedad. Le PSG, bon, ils ont gagné les 2 dernières rencontres contre Lille, mais bon, faut quand même faire attention parce que moi j'ai vu enfin, c'est sûr qu'ils commencent très très bien, hein, on les a vus avant-hier. Ils commencent très très bien les matchs, mais ils ont souvent du mal à en deuxième mi-temps ou fin de match vers la 60e, ils commencent toujours un peu à baisser d'intensité et on le voit au milieu de terrain que c'est très très friable. Donc voilà, va falloir qu'ils donc là ça sera pas Brest en face avec tout mon respect que j'ai pour cette équipe, mais faudra qu'ils serrent les lignes. Au milieu de terrain, les Parisiens, s'ils veulent pas prendre, s'ils veulent pas se faire peur, je sais qu'à chaque fois ils mettaient 2-0, 2-0, 2-0, et à chaque fois ils se faisaient prendre un but justement à ce moment-là, donc 2-1, et on sait qu'à ce moment-là, dans les têtes, c'est plus le même match. Donc maintenant, on sait qu'un match à 2-0, c'est jamais fini, surtout maintenant. Donc faut faire attention à cette équipe lilloise. Donc effectivement, je pense pas qu'il Comme il l'a dit Baptiste, effectivement, un match piège, quand on sait que c'est un match piège, voilà, c'est plus un match piège, mais on sait jamais. Donc je pense qu'ils vont être quand même sérieux. Ils vont faire le boulot, mais voilà, j'aimerais bien les voir un peu plus solides les Parisiens en seconde période, quoi. Enfin, pas à la fin, mais au milieu de seconde période, quoi, on va dire. J'aimerais bien les voir un peu plus solides et avec un peu plus de fraîcheur. Après, peut-être que c'est aussi physique, hein. Généralement, quand on baisse un peu d'intensité à ce niveau-là de la partie, c'est souvent physique. Donc je me dis, bon, au bout d'un moment, il faut quand même que voilà quoi, qu'ils soient un petit peu plus sereins, on va dire, en deuxième mi-temps, je dirais. Parce que ça fait deux, trois fois que je les vois où on prend un but à ce moment-là, on se fait peur à 2-1, puis voilà. Donc j'espère que ça sera pas le même match que contre Brest. Enfin, d'ailleurs, les deux matchs contre Brest. Voilà.
Parce que petite stat, juste avant de te lancer, Baptiste, et de te laisser parler, le PSG sur les 17 buts qu'elle a encaissés, le trois quarts des buts, c'est en deuxième mi-temps. Le trois quarts des buts qu'ils ont encaissés, donc 14 buts qu'ils ont encaissés, c'était en deuxième mi-temps et 3 buts en première mi-temps. Tandis que Lille, eux, marquent plus, justement, en deuxième mi-temps de manière générale. Vas-y, je te lance, Baptiste. Je
Non,
laisse
ouais. Non,
parler.
c'est super intéressant les stats. De toute façon, là, globalement, on a compris ce qu'essayent de mettre en place tout le temps les adversaires du PSG, c'est-à-dire à presser haut. Et des fois, ils ont un peu du mal des fois à ressortir le ballon, notamment avec le milieu. Chiefs l'a dit. Globalement, le défi physique, le PSG le perd 9 fois sur 10 en Ligue 1, que ça soit même contre Strasbourg. Moi, je me rappelle du match même contre Monaco, ils ont eu beaucoup de mal. Mais on est dans un dilemme quand on joue contre le PSG et Lille, je pense qu'ils vont avoir le même. D'ailleurs, c'est pour ça que ça serait intéressant de revenir sur le match aller. C'est que tu es dans un dilemme, c'est que c'est bien de les presser haut. Le problème, c'est que PSG, ils ont besoin d'une occasion et d'une fois sortir du pressing pour jouer le 1 contre 1 et avec des Dembélé, je sais pas si Mbappé jouera avec le coup qu'il a reçu, avec des Dembélé, même des Kolo Muani, des Barcola, ou une passe d'Asensio, ça peut faire but à tous les coups. Et le PSG a ce pouvoir en Ligue 1 que peu ou pas d'équipes ont, c'est que même en subissant le match, en subissant la rencontre, allez, une fois tu sors mal, une fois tu presses mal, ou une fois ils sortent du pressing, ils gagnent le pressing. Luis Enrique en parlait de ça, de gagner contre le pressing adverse. Eh ben, tu joues les 1 contre 1 contre Barcola, Dembélé, Mbappé ou Kolo Muani, il y a plus facile, quoi. Il y a plus facile. Donc, si on se rappelle bien, Lille, ce qu'avait proposé Lille, c'est un bloc assez bas, très très compact, assez bas, en attendant dans leur moitié de terrain pour après jouer les transitions et les contres avec Zegrova surtout. Donc, faut voir ce que va proposer Fonseca. Je pense qu'il va jouer un tout petit peu plus haut. C'est un avis perso, mais faut faire attention avec le PSG parce que Eric Roy le disait, c'est ça. Tu peux te faire avoir sur les deux, c'est-à-dire qui t'endorment un petit peu, même s'ils ont un peu du mal en attaque placée. Le PSG, on dit qu'ils ont un peu du mal et tout ça, mais bon, te faire endormir pendant 20-25 minutes contre le PSG, c'est jamais bon. Pas toucher la balle pendant 25 minutes et d'aller les chasser trop haut, à un moment tu peux le payer. Donc voilà.
Et justement, si demain Mbappé il est sur le banc, alors c'est quelque chose qu'on a pour l'instant vu qu'une seule fois, c'était contre Marseille, c'était à peu près 65 minutes, 60, 65 minutes, il me semble, ou un peu plus. Paris a gagné ce match-là contre Marseille à ce moment-là 4-0. Dans le cas où Mbappé serait pas là, on s'attendrait à une attaque potentiellement avec peut-être Barcola, Kolo Muani, Dembélé ou Ramos
Ramos.
devant, ou encore peut-être même Asensio, hein, on ne sait pas, mais vous pensez que le PSG aujourd'hui peut se débrouiller sans Mbappé dans un match aussi important qu'est un match face à Lille, Thibaut?
Oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, faut arrêter de parler toujours de Mbappé. Va y avoir, quoi qu'il arrive, un après Mbappé. Donc, faut qu'on commence à y penser. Il faut qu'on commence à faire jouer les mecs qui sont derrière lui, quoi. Ouais, je parle Colomoini, Ramos. Je suis sûr, c'est des mecs. On leur tape tout le temps dessus, mais je suis sûr qu'avec un peu plus de réussite et un peu plus de temps de jeu et un peu plus de ballon, je pense qu'ils pourraient reprendre vite confiance. Ça, c'est un bon match pour eux au Parc. Surtout avant la Champions League pour leur redonner confiance et les mettre titulaires, ouais, voilà, direct. Faire souffler Mbappé aussi, le mettre dans un grand glaçon, ça serait bien. Voilà, enfin, non, mais oui, Asensio, Ramos, Kolo Muani, c'est exactement, ils peuvent poser des problèmes au LOSC. Voilà, je pense pas que ça soit Yoro derrière qui va leur faire peur. Après, faut voir ce que Luis Enrique veut faire. Comme on en parlait en off tout à l'heure, on sait pas trop. Il a sûrement un plan en tête, mais on sait jamais ce qu'il va faire. À voir. Mais oui, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse un peu souffler Mbappé, qu'il fasse un peu jouer, oui, Randall, Ramos, ces mecs-là et Asensio. Ouais. Voilà.
Toi, t'en
Ouais,
penses quoi, Baptiste?
je suis exactement comme Tils, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Je vois quand même un peu Ramos vraiment loin dans la hiérarchie. Donc comme ça, je te dirais
Malone.
que je vois pas Ramos, mais il serait tellement capable. C'est très Luis Enrique de dire bon bah écoute, on l'a jamais vu, on le voit plus beaucoup, donc là on va le mettre. En plus, il marque le dernier but. Franchement, sincèrement, je pourrais pas te dire quelle est l'attaque. Je vais te dire, moi, sincèrement, je pense qu'il va le mettre le plus de vitesse possible. Donc moi, je verrais Kolo Muani, Barcola et Dembélé. Mais sachant que Kolo Muani ne joue plus du tout dans l'axe depuis, je crois que c'est Newcastle. Depuis Newcastle, il joue plus du tout dans l'axe. Donc j'ai du mal aussi à voir cette attaque. Peut-être Asensio dans un rôle de faux neuf qui jouerait 10 avec Barcola ou Kolo Muani sur un côté et Dembélé de l'autre. Pourquoi pas ça? Sincèrement, je vais même pas te dire sur une prédiction quoi que ce soit, j'en ai franchement aucune idée. Moi aussi,
Moi, j'aime bien.
je vois plutôt Mbappé sur le banc au minimum pour pas prendre de risque en vue de la Sociedad. Mais alors après, franchement, parier sur ça, j'aurais beaucoup de mal. Hein. Franchement, là, je suis. On est battu face au grand Lucho, on est battu et ses décisions, non, très compliqué de voir clair.
Ah, il est chiant. Il est chiant ce Lucho. Tu voulais dire un truc, Thibaut?
Non.
Non, je voulais dire oui, je rejoins un peu Baptiste sur le fait avec Asensio en faux neuf, je trouve qu'il apporte beaucoup, il apporte cette petite vista, cette petite dernière passe qui fait la différence, ou cette petite frappe à la barre des 25 mètres qui peut être très tranchant. Moi, je suis d'accord pour le mettre en faux neuf qui tourne autour d'un Randal Kolo Muani, ou lui donner des ballons aussi. C'est peut-être ça aussi qui lui manque à Kolo Muani devant. Donc je suis d'accord pour oui, effectivement, pour le tester en faux neuf. Ben, je crois qu'il a déjà joué, hein, mais le mettre en faux neuf derrière Kolo Muani, ça, j'aimerais bien aussi voir ça, ouais. Et le fait qu'il donne beaucoup de ballons, sa technicité, enfin le fait qu'il soit bien technique pourrait les nous aider un peu plus devant, quoi, on va dire. Donc
Ok.
Asensio, j'aimerais le voir un peu plus, ouais.
Ok. Du coup, on va enchaîner sur Lille. Lille, c'est une équipe, bon, déjà qu'on arrive un peu plus à lire aujourd'hui, on sent que Fonseca, il a trouvé un peu cette formule, hein. Et puis bah voilà, Baptiste, tu voulais en parler, hein, le dernier match de Lille, bah contre Clermont, c'était surtout en première mi-temps, c'est une démonstration, hein, ce qu'ils font d'efficacité. Bon, le gardien se trouve sur le deuxième but de David, hein, il fait un peu n'importe quoi le gardien de Clermont, mais de manière générale, on sent quand même que cette équipe lilloise, elle est de plus en plus rodé. On sent un Zegrova à droite, voilà, c'est sa position, il est en place. David qui est en pointe, qui se remet à remettre des buts, hein, malgré un début de saison difficile. À gauche, c'est peut-être un peu plus nébuleux. On ne sait pas trop encore. Enfin, il fait encore un peu tourner. Hein. On a vu que Ounas a joué notamment, il me semble que c'était en coupe. Milieu de terrain aussi, pareil, très solide, hein, avec Benjamin André. Toi, cette équipe lilloise, comment tu la trouves? Tu penses qu'elle peut justement battre cette équipe parisienne à domicile? Baptiste?
Ouais, cette équipe, bah, lilloise, je l'ai jamais cachée, elle me plaît beaucoup. Après, quand on parlait du dernier match, ouais, t'as pensé à Clermont et tu fais bien d'en parler. Moi, je pensais plus à Lyon, sur le match
À
de coupe, parce
Lyon,
que, ouais, parce
Lyon.
qu'à Lyon, ils mettent pratiquement l'équipe type, hein. Je crois qu'il y a juste Ounas qui commence, mais sinon, c'est l'équipe type. Et c'était un match plutôt intéressant à analyser parce que bon voilà c'est à peu près l'équipe je pense qu'on va voir au parc. Je vois bien le triangle Bentaleb ouais, André Gomez. Peut-être que je me trompe mais c'est quand même la force. Ouais je voulais revenir sur oui je pense qu'elle peut la battre ouais comme tu disais. Excuse-moi je pense qu'elle peut battre surtout sur un PSG un peu voilà qui a peut-être la tête à la Ligue des Champions. Et globalement ouais je voudrais revenir sur le match aller où on a vu un Lille assez défensif assez attentiste et qui ressortait quand même plutôt pas mal les ballons avec Bentaleb. Ouais, je pense qu'ils vont être un tout petit peu plus haut sur le terrain. Ils ont bien vu aussi que tu peux être mené face au PSG, tu peux revenir, tu peux même être mené de 2 buts, tu peux revenir, même au parc, ils sont pas complètement fous. C'est quand même eux les premiers qui ont fait ça. Je pense qu'ils ont même des regrets sur le match aller d'avoir été aussi attentiste aussi longtemps en se disant bon bah on aurait foutu le feu un peu plus longtemps. Disons au lieu des 5 dernières minutes, c'était les 10 ou 15. Peut-être qu'on revient avec la victoire. On gagne contre Paris à la maison. Donc ouais, je vois bien un Lille un peu plus offensif qui va gêner le PSG avec que ça soit André ou Bentaleb qui vont mettre pas mal d'impact physique. Même le petit Gomez qui va jouer, je pense un cran plus haut. Ouais, je les vois bien gêner le PSG. Ouais. Sur les côtés, ouais, tu parlais de Zegrova, on n'avait pas vu David au match aller. Je le vois bien débuter. Mais ils ont une fâcheuse aussi tendance à, comme toutes les équipes un peu techniques, à de temps en temps sortir un peu du match, 20-25 minutes. C'est arrivé contre Lyon là, ils sortent du match 20-25 minutes. Pareil, tu fais ça contre le PSG, bon bah tu peux en prendre deux et bon bah le match est terminé. Donc faire attention, ils ont pas mal de qualités, pas mal d'atouts, ils ont deux trois faiblesses sur ce cas-là, un peu de jeunesse avec Yoro derrière, très talentueux, mais bon voilà, de temps en temps ça se perd un petit peu. Faut voir, mais après je les vois faire un gros match souvent quand tu joues le PSG, t'as coché cette date et tu veux te montrer.
Ouais, parce que pour revenir, hein, comme tu dis, sur le match aller, on l'avait vu, hein, dès que certains changements avaient été effectués, hein, donc d'un coup, dès que Lille s'était un peu plus sidéré en disant, bon, on est en train de perdre, on n'a plus rien à perdre, autant y aller, Cabella était rentré, Ounas était rentré, David était rentré aussi, hein, David qui était en plus pas forcément dans la meilleure période de sa vie à ce moment-là, et depuis ce match contre Paris, bah, on a l'impression qu'il revit un peu et il avait réussi à marquer. Toi, Thibaut, pour rebondir un peu sur ce que Baptiste a pu dire, dans le sens où voilà cette équipe lilloise est quand même en forme, mais elle a encore ce défaut de la jeunesse, et on va dire que certains cadres qui devaient apporter plus de sûreté offensivement, comme par exemple Cabella, aujourd'hui, cette année, c'est un peu plus compliqué. Toi, cette équipe lilloise, tu penses qu'elle peut du coup battre cette équipe parisienne au parc, malgré toutes les qualités que le PSG peut avoir?
Ouais, non, effectivement. Bah après, ils ont quand même ils ont quand même de la qualité, hein. Mais je trouve que c'est quand même encore un peu timide. Effectivement, Zegrova, ça joue bien, ça joue bien. Zegrova, ils ont des actions, ils arrivent à se procurer des actions David. Effectivement, mais ils sont un peu, je trouve, ils sont un peu timides. C'est encore un peu timide pour moi. Je les ai vus jouer, enfin, je les ai vus contre Lyon là. Ils sont inclinés 2-1. Alors, est-ce que c'est la jeunesse derrière? Est-ce que je sais pas, mais ils ont été cueillis à franc en tout cas. Yoro qui se fait malmener par Orban sur le premier but là. Il y a vraiment quelques trous d'air derrière. C'est pas mauvais, mais il y a quelques trous d'air des fois qui leur coûtent des buts qu'ils peuvent éviter. Et après, effectivement, ils ont quand même de quoi jouer, de quoi gêner les équipes. Mais moi, voilà, je les ai sentis quand même. Des fois, je les sens quand même un peu timides. Il y a des occasions, ils provoquent des choses dans la construction. Zegrova, David, voilà, je l'attends. David, j'attends qu'il soit un peu plus tranchant. J'attends qu'il pèse un peu plus. Et effectivement, depuis ce but-là, à la dernière minute au parc, là, quand ils font un partout, j'ai l'impression que oui, effectivement, il est redevenu un peu tranchant, un peu plus tranchant. Donc faudra faire attention. J'ai l'impression bah après il est là pendant les grands matchs, mais c'est ça que je lui demande un peu plus, c'est d'être là vraiment dans tous les matchs. C'est peut-être ça qui leur manque. Parce que je crois qu'il est qu'à 8 buts, David, je crois, si je me trompe pas. Donc
8 ou pas, moi.
je crois que c'est 8, je crois. Et du coup, ben, j'attends un peu plus, mais ils peuvent les gêner, c'est sûr, parce qu'ils provoquent des choses, ils font des choses, Zegrova. Ça combine bien, du coup devant, moi j'aime bien. C'est ce petit duo là devant, ça c'est pas trop mal. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais après, si effectivement le PSG ils se mettent en mode sérieux,
Il n'y a
devrait pas
pas
y avoir de
match du
problème,
tout.
je pense. Mais bon,
Ouais, en effet, il est bien 8 buts.
voilà. Donc bon,
Tu voulais
on va
dire
dire.
quelque chose?
On va dire oui, ils peuvent les gêner si, mais bon, à voir.
Ok, je te laisse enchaîner, Baptiste.
Ouais, il déconnecte. Non, mais c'était pour ajouter, pour appuyer. Ouais, il déconnecte de temps en temps des matchs, Lille. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus de possession après le PSG, d'après ce que j'avais vu comme stats. Donc de temps en temps, un peu à l'image du PSG, ils s'endorment un peu sur le match. Voilà, ils sont souvent plus
Ouais,
forts techniquement que l'adversaire. Donc vas-y, bon bah de toute façon ça va passer. À un moment on va faire l'écart parce que voilà on a des joueurs un peu plus techniques, un peu plus beaux, un peu plus. Donc de temps en temps ça leur arrive de déconnecter des matchs. Ceci dit, au match aller ils avaient eu une discipline de fer. Le PSG avait complètement dominé les 80 premières minutes. Mais sans se créer énormément d'occasions. Alors c'était une domination territoriale sans partage. Même en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon, mais ils n'avaient pas bougé de leur plan de jeu, Lille. Et sans un penalty un peu bête, le PSG ils auraient beaucoup de mal à marquer sur ce match-là. Donc faut voir. Souvent, nous, on décrypte les matchs contre le PSG. C'est souvent compliqué parce que l'entraîneur adverse a un plan bien précis contre eux. Tu vois, on aurait fait la preview du match aller. J'aurais jamais pensé que Fonseca propose ce type de match, et il l'a proposé et bien lui en a pris parce qu'il ramène un point, il ramène un point à la maison. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'il y a moyen, et surtout avec la forme actuelle du PSG où on les sent pas non plus dans totale maîtrise, il y a moyen de ramener quelque chose d'assez conséquent du Parc des Princes.
Ok. Ouais, bah beaucoup de flou quand même dans ce match. Merci Monsieur Henrique, hein, qui. Alors c'est vrai que c'est intéressant, hein, parce qu'il essaye des choses, il nous oblige à repenser le football. En soi, c'est intéressant, ça change un peu et puis c'est bien même pour en tant qu'observateur, voilà, de se demander ce qu'il va faire chaque week-end. C'est vrai que l'avantage de Lille pour ce match-là, c'est que eux n'ont pas de match européen la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. Donc ils ont aussi cette liberté de se dire on peut se donner à fond. En termes de compo, avant qu'on passe au score, vous vous attendez à quoi côté Paris Saint-Germain? Vas-y Baptiste.
Donc là, ouais, c'est tombé que t'en parles parce que là, je viens de lire une news comme quoi Marquinhos, il avait joué contre Brest, strappé et en serrant les dents à peu près toute la deuxième mi-temps. Donc avec ça, je vois pas Marquinhos commencer, étant donné que bah voilà, mercredi c'est le gros match. Donc ouais, je vois bien un petit Beraldo à gauche, je vois bien un petit Beraldo à gauche ou dans l'axe. Je vois bien à droite Danilo et je vois bien Hernandez qui était suspendu reprendre sa place donc à gauche ou dans l'axe. Je sais pas ce qu'il va faire entre Beraldo, voilà les choix de Luis Enrique, des fois ils sont pas incompréhensibles mais ils sont difficiles à cerner pour nous. Au milieu, je vois bien un petit Ugarte. Comme je le disais, je vois plutôt répétition générale à Brest, donc un peu voir tourner l'équipe. Pourquoi pas voir, on en parlait à Asensio faux 9, mais pourquoi pas le voir un cran derrière, comme tu disais, en 10, et soit Zaïre Emery, soit Vitinha qui est en poste de relayeur. Et voilà, on en a parlé devant. Me demande pas, c'est la grande incertitude. Donc, je vois plutôt Dembélé commencer, et après entre Kolo Muani, Barcola et Ramos, bah, voilà, très compliqué de ou très très compliqué de voir. Comme je vois je pense qu'il a trouvé son attaque pour la Real Sociedad. Donc, comme je le vois faire un peu tourner. Peut-être que Barcola va souffler un petit peu et rentrer gentiment si le score il est pas acquis ou pour faire souffler que ce soit Kolo Muani ou Dembélé.
Ouais,
Donc ouais,
ok.
je verrais plus Barcola sur le banc, mais alors là avec un voilà, pas une très grande conviction hein, si tu veux.
Ok. Mais c'est vrai qu'il avait essayé Beraldo à gauche et je crois qu'il aime pas trop
Non,
Beraldo à gauche.
moi je le préfère dans l'axe, hein. Je le préfère dans l'axe, moi.
Ouais, je crois qu'il avait pas
Elle a
trop
un
aimé.
déficit dans le 1 contre 1 et au niveau défensif, une superbe relance, mais un déficit
Au niveau de la vitesse, il
un
n'est pas très
défenseur
très
ouais.
rapide.
Surtout José Grova avec Beraldo en 1 contre 1. Je vois plutôt Hernandez à gauche. J'ai pas parlé, excuse-moi, il manque un joueur, excuse-moi, je vois bien faire souffler Hakimi et mettre Soler à droite aussi, hein. On en parlait pas de ça.
Il y a
Mais
Moukielé aussi,
je
hein, qui soit qui
vois.
peut. Il y
Ouais,
a
il y a aussi
Moukielé qui
Mukiele, mais bon, pareil, il y a la cave aussi, donc j'ai du mal à le voir,
joue.
mais à la cave, peut-être à droite, alors dans ces cas-là, Mukiele, peut-être à droite. Mais ouais, je vois bien Hernandez s'occuper de Zegrova et réaxer un petit peu Beraldo. Donc avec Danilo, Beraldo, Danilo, je vois bien ce système-là.
Ok. Et toi, Tibbs, au niveau du 11, t'es plutôt d'accord avec
Ouais,
Baptiste?
je suis assez d'accord avec la défense de Baptiste, là. Beraldo, Danilo dans l'axe, je verrais bien ça. À gauche ou à droite, enfin à gauche Hernandez pour tenir Zegrova effectivement, et à droite, je sais pas, j'aimerais bien voilà un petit retour de Moukielé, ça me plaît bien cette petite défense là pour jouer le LOSC. Après au milieu, bon. Qui tu peux faire rentrer au milieu pour faire souffler? Ugarte à la rigueur, ouais, un petit Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, ouais. Et après devant, ben, comme tu dis, incertitude. Donc, je
Ok.
pense que ça va être, je pense que ça va être, ouais, Asensio. Moi, je verrais bien. Moi, je mettrais, ça serait moi, hein, je mettrais Asensio, Kolo Muani et Barcola. Moi. Après,
Ok.
adviendra qui pourra.
Et au niveau du score, hein, je vais continuer avec toi, hein, juste pour t'indiquer, hein, le PSG, la cote du PSG est à 1,62, le nul à 4,30, Lille
Belle
est à
cote, belle cote.
5,60. Tu vois quoi comme score?
Moi, je vois c'est technique un peu. Parce que je pense que Lille peut marquer en vrai. Allez, bah, je sais même pas. Allez, bon, je vais dire 2-1, 2-1 pour Paris, avec un but de Barcola. Forcément, et un but de Vitinha, voilà, au milieu, une petite frappe, voilà, comme il sait les faire, et voilà, 2-1, et après avec un penalty que David tire, et voilà, 2-1, 2-1 Paris,
Sans grosse conviction, quoi.
en grosse conviction. Voilà, je dis 2-1, mais franchement, je sais pas, mais
Ok.
je les vois gagner, mais après combien, je sais pas.
Ok. Baptiste, toi au niveau du score?
Ouais, niveau du score, je vois bien un petit match nul. Mais globalement, c'est assez marrant la compo et l'indécision qu'on a. Je trouve que c'était assez drôle de noter ça.
C'est ça.
Et au niveau du, donc nous, bon, je m'en cache pas, je suis supporter du PSG. Des fois, à court terme, c'est un petit peu, comment dire, gonflant. Enfin, gonflant, je sais pas, mais un petit peu irritant, on va dire, de pas savoir la compo, des fois de pas trouver, de pas voir ce qu'il essaye de faire, de ne pas comprendre, même si quand même on arrive à lire entre les lignes. Mais après, faut pas oublier que c'est une jeune équipe, elle a été refaite là, ça fait que 6 mois. Souvent dans le foot, on parle et tout ça, mais ça fait que 6 mois. Je trouve quand même que on a baissé en talent côté PSG. Et on peut remodeler l'équipe. Alors c'est la manière de Luis Enrique, mais on peut remodeler l'équipe comme ci, comme ça. Et il n'y a pas un énorme changement au niveau qualitatif. Donc c'est assez intéressant de faire ce petit de faire ce petit exercice en montrant que bon bah nous au niveau à court terme on est un petit peu perdu, mais long terme je pense qu'il a deux trois enseignements qui seront intéressants pour l'avenir à Luis Enrique. Et au niveau du prono, je vois bien un nul, moi. Je vois bien un nul, un petit 1-1 ou 2-2. On sait que Paris concède beaucoup, tu l'as dit là. Je faisais le calcul, ça fait 12 tirs. Bon, après, faut voir la qualité des tirs, mais 12 tirs, c'est quand même pas mal concédé par match. Quand tu faisais sur 20 matchs, ouais, ça faisait 12 tirs et demi concédés. Donc, je vois bien, PSG concède pas mal d'occasions. Je trouve qu'ils n'ont pas une très bonne maîtrise. Défensive, l'animation défensive est quand même assez faible pour le moment, je trouve, surtout dans sa début 2024. Donc ouais, je vois bien un petit 2-2, un truc avec des buts, et je vois bien Lille, comme je disais, un peu plus offensive. Donc ça me ouais, un petit 2-2, ça me Paris sera pas non plus énervé de pas absolument gagner ce match-là, vu
Oui,
qu'ils auront peut-être déjà
ils vont
la tête.
tempérer.
Donc ouais, je vois bien ça, un petit 2-2, un petit match avec des buts sympa, et le buteur, parce que ça m'arrange pour mon MPG, je dirais Kolo Muani, je vois bien Hernandez de la tête, on marque jamais de la tête, donc ça serait pas
Ah
mal.
ouais, t'es
Et
conscient, toi, là.
un petit but de David et petit but de David et Zegrova. Et on est bien. De deux, match assez ouvert, match assez intéressant, match assez technique. Donc non, assez intéressant. Voilà.
Ok. Moi, je vais être. Alors, d'habitude, quand je dis que le PSG perd, PSG gagne. Donc, je vais continuer là-dessus. Moi, je pense que le PSG va perdre 2-1.
T'es contre le PSG, toi, on le sait, de toute façon. C'est comme ça, c'est voilà, il faut le dire. Faut le dire, dis-le à la tire, on tire.
Je vais enlever mon deuxième maillot.
Oh,
Le maillot qui se cache en dessous.
c'est terrible.
J'ai jamais vu gagner un match quand même. Hein. Là, ils sont premiers du classement avec 8 points d'avance, tu les as pas vus gagner un match. C'est
Je
fort.
te jure, mais tant mieux, tant mieux. C'est tu vois, psychologie inversée. Mais ouais, moi je vois une victoire lilloise. Hein. Moi, je pense qu'ils vont être beaucoup plus offensifs qu'au match aller. Hein. Comme tu l'as dit, ils vont pas louper leur chance. Et je trouve que les joueurs sont quand même en meilleure forme. Et moi, je vois un 2-1 avec notamment un but de David Ezegrova. Et de l'autre côté, je vois bien un but. Allez, je pars du principe que Mbappé joue pas. Moi, je vois bien un but de. S'il joue, en tout cas, je vois bien un but de Ramos. Ouais, bien un but de Ramos dans le cas où il joue. Mais ok. Bon, bah, nickel. Maintenant, on va enchaîner sur notre petit tour des stades. On va faire le tour des rencontres de ce week-end pour la 21e journée. Donc, on va commencer par Marseille-Metz. Donc, Marseille qui s'est incliné la journée précédente face à un Lyon. Hein. Donc, Marseille qui a beaucoup de mal, qui a beaucoup de mal là en 2024, hein, à enchaîner bah, les bonnes prestations, hein, parce que clairement contre Lyon, leur match n'était pas folichon. Mais bon, après, on va dire qu'ils ont dans leur malheur, ils ont un peu de chance parce qu'ils vont rencontrer Metz qui a enchaîné 8 défaites de suite, qui est actuellement 16e du championnat. Quand Marseille, elle, est 8e du championnat, c'est quoi vos pronos pour ce match? Alors, on va commencer par toi, Thibaut.
Ouais, effectivement, Marseille, quand je regarde, c'est assez chaud quand même. Ils ont, enfin, la seule victoire là en 2024, c'est contre Thionville. Là. Donc, effectivement, bon, avec tout mon respect que j'ai pour Marseille, hein, effectivement, vous me connaissez. Bon, c'est le match à pas perdre celui-là. S'ils veulent, faut absolument qu'ils prennent des points, qu'ils reviennent au moins un minimum sur Lens, ça serait bien. Bon, je vois quand même Marseille gagner au Vélodrome devant son public. Je pense qu'ils ont les moyens de le faire, même avec un effectif amoindri, on va dire, sans Rongier, sans Mbemba. Voilà, je pense qu'ils peuvent quand même gagner contre Metz. Ça devrait pas être bien difficile. Je pense qu'ils devraient gagner, logiquement. Voilà. Donc moi, avantage Marseille quand même. Logique.
Ok. Toi, Baptiste, Marseille-Metz?
Ouais, pareil, je vois l'OM, ils ont pris une soufflante de leurs supporters là après Lyon. On sait que là-bas, une soufflante des supporters, c'est même un peu plus important que quand tes dirigeants viennent te voir ou ton entraîneur t'engueule. Donc globalement, je vois Marseille assez facilement d'ailleurs en plus, parce que franchement, je vois peu de qualité chez Metz. Je trouve qu'en plus, dès qu'ils sont à l'extérieur, ils sont très très bas. Je pense que ça a favorisé l'OM d'avoir plutôt le ballon là. Et de jouer assez haut, donc je les vois marquer assez vite et assez s'imposer assez facilement, un truc comme 2-3 buts d'écart. Ah, non, c'est facile. Je vois la réaction d'orgueil de l'OM, très facile.
Non, ils doivent gagner ce match-là. Parce que s'ils gagnent pas, je pense que ça serait tâche là quand même. Ça commencerait à faire beaucoup.
Bah, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal d'absents, hein, comme tu le disais, Thibaut. Hein, aujourd'hui, t'as les Rongier, Kangombia, Gay, Morillo, Veretout absent, Bemba. Ils ont eu cette réunion entre les joueurs. D'ailleurs, ça m'a fait très rire parce que j'ai vu un tweet passer entre les joueurs et les supporters où les joueurs leur ont répondu on va faire de notre mieux. Ah, je sais pas comment prendre ça. Mais moi, je vois plus un match nul. Je pense que la crise va encore un peu continuer côté Marseille. Moi, je vois un match nul 1-1 parce que Metz a quand même essayé de recruter quelques joueurs. D'ailleurs, la recrue, je me souviens en plus son nom a marqué lors du dernier match.
Mikotadze, non? Il est revenu.
Bah, ils ont recruté Mikotadze, mais le dernier match, non, c'est une autre recrue qu'ils ont pris là cet été qui a marqué. Je me souviens plus son nom. Donc non, moi je vois un match nul entre Marseille et le FC Metz, histoire de continuer un peu plus la crise. Match suivant, tac tac tac.
Et au fait, il faudrait peut-être parler de, bah, peut-être qu'on aura le temps, mais je trouve que c'est les premières fautes de com. Et je parle bien de com, pas forcément sur le sportif, de Longoria sur Klose. Je trouve que c'est la première faute qu'il fait et en plus elle est assez grande, donc c'est un peu, moi je suis plutôt fan de ce qu'a fait Longoria à Marseille. Je parle très globalement, hein, sur le bilan global, Mais celle-ci là, elle m'interpelle un petit peu, les déclats sur Clause. Donc voilà, le coup de, il est très bien payé, tout ça. Bon, parce que comme quoi il irait tranquillement parce qu'il était un petit peu blessé, qu'il essaierait d'un petit peu se, comment on dit ça, de se préserver, excusez-moi, de se préserver. J'ai trouvé ça un peu moyen de le balancer comme ça à la presse. Alors, il y a peut-être des raisons, comme même sur l'agent, c'est un petit peu bizarre ce qu'il a dit. Donc ça interpelle quand même. Et en plus, venant de Longoria, c'est un petit peu, c'est étonnant. En fait, c'est étonnant. Donc à voir si c'est pas le mal n'est pas plus profond que moi je le pense, parce que je pense que c'est juste une crise de résultats. Mais à voir si c'est pas un petit peu plus profond que ça.
Bah, surtout que c'était l'entraîneur, enfin le président qui avait quand même l'habitude de protéger son équipe. Et après, moi je pense que ça m'étonnerait pas que Longoria à la fin de l'année il parte, hein. Avec
Ouais,
tout ce qui s'est
non, mais c'est la première
passé,
faute de
la
com.
fatigue mentale,
T'as raison.
tous les coachs, les recrutements qu'il faut
Non.
refaire à chaque fois chaque année, les équipes qu'il faut reconstruire, j'ai l'impression que le mec il est complètement lessivé, qu'il a plus rien en fait. Là
Ouais, et
il est
j'en suis.
il contrôle plus quoi.
Ça, t'as raison, et j'insiste bien. Hein, c'est, je parle bien de la com, hein, juste de la com, de la communication, pas du sportif. Je parle pas des transferts qu'il a ratés, de ce qu'on pense, ceci, cela. Je parle vraiment de la com où je l'ai toujours trouvé assez nickel, assez même assez parfait, sincèrement. Et là, je trouve que c'est la première. Alors à voir à voir ce que ça donne à l'avenir. Mais je trouve que voilà, la décla elle présage rien
Non.
de bon en fait. Donc
Ah, je
voilà.
suis d'accord. C'est vrai que ça m'avait surpris aussi hein, quand j'ai vu pareil hein, sur les certains
C'est quand
tweets.
même le meilleur joueur, quoi. C'est quand même le meilleur joueur. Quand il est rentré contre Lyon, on a vu un peu la différence. Donc ça interpelle, quoi. Donc peut-être avec Aubameyang, hein, je dis bien, je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs joueurs de l'OM. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu moyen et surtout pas de, c'est pas de, très surprenant de la part de Longoria que moi j'estime être un assez bon, un très bon dirigeant, sur le plan de la communication, en tout cas.
À voir, à voir, à voir. Match suivant, Lens contre Strasbourg. Lens qui fait son petit bout de chemin, hein, finalement. Lens, voilà, tranquillement, on n'en parle pas trop. Elle a gagné ses deux derniers matchs. Bon, certes, elle avait perdu contre Nice et le PSG, mais là, pardon, pas contre. Si, ouais, c'était contre Nice et le PSG. Il me semble que ces deux dernières défaites en Ligue 1, si je me trompe pas. Et là, qui remonte tout doucement. Lens est actuellement sixième du championnat, à 3 points de Monaco et Lille, qui sont quatrième, enfin cinquième et quatrième respectivement, qui va affronter un Strasbourg qui, elle aussi, fait son petit bout de chemin. Alors, certes, elle a perdu son dernier match face au PSG, et encore, je trouve qu'elle a fait une deuxième mi-temps où elle a essayé de se réveiller, elle a fait peur au PSG quand même. Mais sinon, à part ça, elle a fait enchaîner sur 3 victoires et 2 nuls. Lens Strasbourg, Thibaut, toi, tu penses quoi, score, t'en dis quoi?
Bah effectivement, de toute façon, les hommes de Franck Hayes, ils sont particulièrement performants à domicile, hein, et surtout en seconde période. Là, ça fait deux matchs qui gagnent. Voilà, 1-0 contre Nantes, 2-0 contre Toulouse, ils font le job. Bon, même s'ils perdent contre les gros, contre PSG, contre Nice, ils sont quand même sixième. Ils sont en embuscade, on va dire, les Lensois. Ils remontent petit à petit, effectivement, parce qu'ils avaient commencé la saison, on va dire, voilà. C'est vrai, en
Relégable.
plus, ils avaient mal commencé le début de saison, mais je pense qu'effectivement, ils avaient pas fait une bonne prépa physique, apparemment. D'après certains dires enfin d'après des dires de certains joueurs et des supporters que on connaît très bien, la prépa physique n'était pas là. Donc, mais là, ils ont l'air d'avoir pris un petit cap. Ils sont sur 2 victoires de suite et je les vois bien, pareil, mettre accélérer, hein, comme on dit, jamais 203. Et une petite victoire contre Strasbourg, ça ferait pas de mal pour tout le monde, pour les supporters. Tout le monde serait content, je pense. S'ils battent Strasbourg à domicile, ça devrait le faire. Ça devrait passer pour les Lensois. Ça devrait passer pour les Lensois samedi à 17h. Donc, je vois bien une victoire de Lens, effectivement. Voilà. À 1,63.
Ok, ok. Toi, Baptiste, Lens PSG. Lens PSG, Lens Strasbourg, pardon.
Ouais, pareil, je vois plus Lens. Équipe, on a déjà parlé avec Corentin, équipe plus mesurée que les autres années, que les années précédentes, ouais, qui nous enthousiasmait. Moi, elle m'enthousiaste un petit peu moins, mais toujours excellemment coaché. Il connaît bien ses joueurs, il s'adapte. Super coach, hein. Vraiment, il y a rien à dire. Les deux derniers matchs, parce que ouais, tu nous as dit, ils gagnent. Je me rappelle du match à Nantes où ils ont un peu de mal au début et ils reviennent bien. Donc ouais, je vois plutôt Lens, Strasbourg aussi qui m'ont fait une très bonne impression contre le PSG. Des fois, je me méfie quand même des matchs contre le PSG parce que le surplus de motivation se montrait tout ça. Mais il y a deux trois joueurs très intéressants. Je pense à Angelo, je pense à Bakwa. J'espère que je l'ai dit.
Ouais, 3-1 contre Strasbourg, c'est pas mal. Hein, le 3-1 contre Strasbourg là.
Et donc, non, il y a deux trois joueurs intéressants, donc non, ça risque d'être un match assez intéressant, mais je vois à l'expérience, au coaching aussi, parce que je pense vraiment que Francaise est un bien meilleur coach que Vieira. Donc sincèrement, ouais, je vois Lens à l'expérience, à domicile, bah, dicter sa loi, quoi.
Ouais, plutôt d'accord avec vous, hein, sur ce coup-là. Je vois Lens aussi gagner, d'ailleurs, une cote à 1,64, Strasbourg qui est à 5,70, hein, même si je trouve que Strasbourg, quand même, est quand même, sur ces dernières journées, bien meilleur que le début de saison où c'était très poussif. On sent que, voilà, la machine fonctionne déjà un peu mieux, mais.
C'est pas catastrophique, Strasbourg, hein. C'est pas
exactement.
Il y a du bon et du bon, mais c'est bien, ça va, c'est. Ils sont à leur place. Voilà.
Devant, t'as le petit Méga et tout ça. Enfin, ouais, t'as un truc qui se met en place, tu vois. Bon, certes, ils ont changé de gardien, voilà, à toute fin de mercato, et leur nouveau gardien qui est, certes, voilà, c'est inexpérimenté, il a fait une boulette, ils sont 10e, mais je vois Lens gagner à l'expérience, pareil, hein, 2-1, 2-1 pour Lens, ouais. Match suivant, on va passer maintenant à Le Havre face à Rennes. Alors ça aussi, hein, c'est pas des matchs faciles quand même pour ce week-end, hein, puisque c'est quand même des équipes, on va dire, assez équilibrées dans le jeu qui vont se rencontrer. Donc d'un côté, on a, voilà, une équipe de Havre qui propose du beau jeu cette année en Ligue 1, hein, qui a fait un match nul lors de la dernière journée face à Monaco, hein, qui a enchaîné deux matchs nuls et une victoire sur les trois derniers matchs. En face, on a une équipe rennaise, qui est en pleine bourre, qui a enchaîné quatre victoires de suite. En Ligue 1 notamment, avec une victoire lors du dernier match face à Montpellier, une victoire assez convaincante, hein, avec encore un but de notre ami Terrier qui s'arrête plus. Toi, Thibaut, ce Rennes-Le Havre, t'en attends quoi au niveau du score, des vainqueurs?
Ouais, bah effectivement, la Rennes, ils sont en pleine bourre là, ça fait 5 matchs de suite qui gagnent. Kalimuendo qui revient un peu au niveau, Terrier devant qui marque. Moi, pour le moment, ça me plaît bien. Donc, ils montent petit à petit en puissance. Je pense qu'ils peuvent aller chercher la victoire au Havre, mais attention quand même, parce que le Havre est à domicile. C'est une équipe très. Ils sont sur 3 victoires de suite à domicile et surtout pas contre des peintres, hein, contre Nice. Ils sont allés battre Nice. Match nul contre Monaco. Ils battent Caen. Non, c'est le Havre, ça peut gêner aussi Rennes. Moi, je vois un match nul. Je vois un match nul ou une victoire rennaise quand même. Mais si le Havre arrive un peu à manœuvrer cette équipe rennaise, bon, je Je partirais sur le nul ou Rennes, moi, de base. Voilà.
Parce que faut noter aussi qu'il y a le retour de Bayo et Opéry, hein. C'est pas non plus
C'est
rien,
vrai.
ça
Ah
peut
oui,
peser
c'est
dans
vrai,
la
c'est vrai.
défense.
Ouais.
Ok.
Mais bon, Rennes, ça m'a l'air quand même. Ils ont l'air quand même en sacrée confiance, hein. Donc, je me demande où ils vont s'arrêter parce que là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4
7,
victoires
ouais.
de suite en Ligue 1.
7 même
Que en
carrément en
Ligue
Liga,
1.
ouais. Que en Liga, ouais. Donc,
Ouais.
non, Kalimundo a l'air d'avoir retrouvé ses jambes et sa confiance, quoi. Donc, à voir. Et Terrier qui revient, là, ça, c'est beau aussi. Donc, moi, cette équipe rennaise, j'aime bien. Enfin, je les mettrais gagnants, mais on ne sait jamais. Avec eux, c'est toujours du 50-50 avec Rennes, on le sait. Donc, bon. Allez, je
Ok.
partirai sur Rennes ou nul. Rennes ou nul pour protéger quand même, on ne sait jamais.
Ok. Et toi, Baptiste?
Ouais, moi aussi, pareil. Je trouve que Stéphane, il avait commencé à trouver il a trouvé un peu la bonne formule devant avec Terrier-Kalimundo. Ça marche plutôt pas mal. Les deux marquent, les deux sont assez décisifs. Donc sur la dynamique, ouais, je vois plutôt Rennes. Attention quand même, comme disait Tibbs, c'est une équipe accrocheuse surtout à domicile. Le Havre, elle se laisse jamais faire. Elle est un peu plus offensive, bon, ouais, comme 90% des équipes, tu me diras, mais un peu plus offensive à domicile. Elle est loin d'être inintéressante dans le jeu. Donc, mais je vois quand même Rennes plus de qualité offensive. Et voilà, la formule, elle marche. Là, ils sont sur un 4-4-2 assez un peu à plat, assez intéressant. Ouais, je vois Rennes.
Ok. Moi, je vais vous surprendre. Après, Le Havre, c'est vrai que c'est une équipe que j'aime beaucoup cette année. Moi, je pense que Le Havre va s'imposer à domicile sur la petite démarche, hein, un petit 1-0, on va dire. Même si c'est vrai que Rennes marche sur l'eau en ce moment, mais je pense qu'à domicile, ouais, Le Havre, ils vont quand même faire le taf, surtout qu'il y a certains joueurs importants qui reviennent, hein, comme je le disais, hein, comme Opéry, et surtout, Rennes a perdu Enzo Lefebvre qui ne sera pas là, et on sait que au milieu de terrain, il avait quand même pris ses marques et il s'était quand même bien imposé, hein, dans ce système de Stéphan. Donc, dans le système de Stéphan, pardon. Donc, ouais, 1-0, moi je pars 1-0 pour Rennes. Toulouse, non. Non, si, ouais, Toulouse, Nantes. Toulouse, Nantes, Thibaut.
Tu veux que je le prenne?
Ouais, vas-y, prends le Baptiste.
Ok, nickel. Bon bah j'espère que vous avez mis votre réveil parce que Toulouse-Nantes,
C'est
je crois qu'en plus c'est 15h, c'est l'heure de la sieste,
15
donc
heures.
ça peut être un match très compliqué. En plus moi qui était assez fan les dernières années, bon, un des seuls, si ce n'est les supporters de Nantes, de cette équipe nantaise. Donc là je trouve que ces deux équipes qui c'est très compliqué, que ce soit au niveau du jeu. Bon, tu me diras, même si Toulouse reste sur une victoire à Reims, mais bon, faut voir la victoire. Ils menaient 3-0, ils sont à deux doigts de se faire remonter 3 buts. Je trouve ça très compliqué dans le jeu. Alors, non, j'en parle pas non plus. Même si j'avais bien aimé la première mi-temps, il y avait une petite réaction contre Lens, mais au fil du match, bah Lens a complètement dominé les débats. Hein, ces deux équipes assez malades. Sincèrement là, je verrai un peu plus Toulouse parce qu'ils jouent à domicile, mais alors il y a zéro conviction sur ce que je dis. Voilà, je pense que le truc c'est de rester un petit peu éveillé pour ce match. C'est deux équipes malades et elles sont pas inintéressantes, hein, je dis pas. Mais là en ce moment c'est très compliqué de voir du jeu de ces deux équipes quoi. Donc comme j'aurais du mal à les partager, j'irais sur le nul ou la victoire à domicile, mais sans aucune
Ouais.
conviction, tu l'as bien entendu.
Ouais, non, mais clairement, heureusement qu'il y a 3 matchs en même temps à 15h. Hein. Ça évite de rester concentré que sur celui-là. Thibaut, t'es avec nous? Est-ce qu'on a perdu Thibaut ou est-ce qu'il est là? Thibaut, t'es encore avec nous?
Ouais,
Non,
je suis là, c'est bon.
ouais.
Toulouse-Nantes, ouais, moi je dirais, moi je dirais plus, ouais, plus un petit avantage à aller à Toulouse, mais je verrais bien un bon petit match nul quand même, sachant que même de l'autre côté, du côté nantais, ils ont pas Simon qui est avec la sélection nigérienne. Nigériane, pardon. Ganago blessé, ouais. Ouais. Pff. Non, non, je verrais peut-être un match nul et à la rigueur un petit avantage à Toulouse. Mais ouais, je suis du même avis que Baptiste. J'ai vraiment pas d'affect sur ce match-là. Mais ouais, pff, un bon match nul ou ouais, un bon match nul.
Ouais,
J'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là, franchement.
Non, mais ouais, je suis d'accord avec vous, hein. C'est pas le match le plus excitant, c'est pas les équipes les plus excitantes, mais je pense que quand même Toulouse devrait s'imposer. T'as quand même des joueurs qui sont un peu plus en forme. Nantes, je sais pas trop vers quoi ils se dirigent.
Y a des Wéré, je sais pas qui se mettent devant, comment il s'appelle l'Égyptien devant.
Mostefa, ouais, qui est revenu de
Ouais.
la CAN, ouais, peut-être ça peut
Y a des
aider
Wéré,
encore.
ça fait pas très très envie. Enfin, je sais pas, franchement, j'ai pas d'idée sur cette équipe de Nantes. Elle me fait pas du tout rêver, quoi.
Non mais ouais, je vous suis un peu. Ouais, moi je pars sur Toulouse, allez, victoire 1-0 avec but de Dalinga pour mon
Ouais, ouais,
MPG.
ouais. Un bon petit classique. On peut
à souligner quand même que je fais un petit big up à mon petit Mostefa, moi Mohamed, et j'adore ce joueur. J'adore ce joueur. Je trouve que ça, il a quand même pas mal de talent pour ce qui est de la finition. Et ça m'étonnerait pas qu'il parte sous d'autres cieux dans un club un peu plus huppé, parce que je trouve qu'il a vraiment de la qualité ce joueur devant le but, même pour se placer, le positionnement sur les centres et tout. Joueur vraiment très très intéressant et j'ai peur qu'il fasse pas de gueuxo à Nantes.
Ah mais enfin s'il reste à Nantes, c'est incompréhensible, hein. C'est quitte à la kidnapper, il a sa famille dans la cave ou un truc comme ça, mais moi je le vois pas du tout rester à Nantes. Il n'y a rien à faire à Nantes, quoi. Enfin bref. Match suivant, Lorient-Reims. Ouais. Lorient-Reims aussi, pareil, un petit match de 15 h. Ben, Reims qui est pas en forme, hein, quand même, ces derniers temps, hein, qui a quand même du mal enchaîné. Ils ont perdu pas mal de places.
Ouais,
Certes,
ça freine, hein, ça freine beaucoup.
c'est ça, hein, c'est une défaite et un nul sur les deux derniers matchs. Bon, ils avaient gagné deux autres matchs avant, mais ouais, en 2024, c'est assez compliqué pour Reims. Et de l'autre côté, ils affrontent Lorient qui a certes gagné leur dernier match, mais bon, c'était pas folichon. Non plus face à, il me semble c'était face à Metz si je me trompe pas,
Ouais.
ouais, avec deux buts
Bien.
de leur recrue. Bon voilà, ils jouent à domicile, Lorient. Reims n'est pas forcément en forme. Ils ont récupéré Ito. Ouais, Thibaut, t'en penses quoi?
Ouais, moi je non non ouais moi je suis plus de là, je pense que Reims va ils ont récupéré Ito, je pense qu'il revient de la Coupe d'Asie là, je pense il a pas joué, en plus ils ont pas fait beaucoup de matchs le Japon, c'est ce qui me enfin si d'après ma ce que j'ai vu. Ouais, je mettrai un petit Reims ou nul pour consolider ça, mais je vois vraiment pas Lorient, je vois vraiment pas Lorient les accrocher. Je pense que Reims, c'est quand même assez sérieux quand ça veut prendre un petit point, tu vois, à l'extérieur, c'est quand même assez solide avec Abdelhamid derrière. Logiquement, je pense qu'ils vont soit remettre un petit coup d'accélérateur ou faire un petit match nul tranquillement et prendre un petit point, voilà. Mais c'est sûr qu'ils sont peut-être en demi-teinte en 2024 là, les Rémois. Mais je les vois bien, je les vois pas prendre l'eau contre Lorient. Logiquement, si ça reste sérieux, ça devrait prendre 3 points. Et si vraiment ça se laisse un peu aller, match nul. Allez.
Ok,
Donc,
à
Reims ou
toi,
nul.
Baptiste.
Ah bah moi, paradoxalement, je vais être complètement à contresens de vous, parce que paradoxalement, c'est le match qui m'a eu le plus de 15 heures, on va dire, ce Lorient-Reims, sincèrement. Je trouve que Lorient, ils reconstruisent des bases beaucoup plus saines que fin 2023. C'est plutôt intéressant ce qu'ils font, sans être génial, et on peut pas. Quand on repart de zéro, c'est compliqué d'être tout de suite très cohérent et tout ça, mais c'est plutôt intéressant. Il y a deux trois bons joueurs. Bon, moi je suis particulièrement Carry, Ayman Carey. Mais
D'accord.
même il y a le petit Elie Kroupi Junior devant qui est loin d'être inintéressant. Il y a deux trois bons joueurs à Lorient, ça refonctionne bien. J'ai pas de doute que leur entraîneur Lebris est très bon. Donc non, moi je vois une victoire de Lorient. Vous avez dit un Reims qui va beaucoup moins bien. Peut-être un petit contre-coup physique parce que je trouvais que c'était une équipe qui se dépensait énormément physiquement. Moi, elle m'avait impressionné sur les matchs que j'avais pu voir physiquement. Peut-être qu'ils ont un petit contre-coup. Je vois bien Lorient leur poser des problèmes et pourquoi pas gagner ce match. Non, je revois une équipe cohérente de Lorient. Donc ouais, je vais vous surprendre plutôt Lorient. J'irai plutôt côté Lorient.
Ouais, Lorient qui a deux buts de leur recrue aussi. Hein. C'est marrant contre Metz puisque c'est que les recrues qui ont marqué.
Ouais, c'est contre
C'était
Metz.
sympa. Ils ont perdu Fèvre. Ouais, ils se relancent. Lorient, c'est pas mal. Reims, ils récupèrent Ito,
Après, c'est contre Metz quand
Nakamura
même.
et Diakité. Donc, moi, je verrais plus un match nul parce que je sens les équipes, même s'ils vont, ils sont pas aux mêmes positions. Reims est 7e et Lorient 17e, mais je trouve que actuellement, dans leur forme, c'est assez équilibré. Donc, moi, je vois plus un
Un nul,
petit
ouais.
1-1-1. Ouais, 1-1-1 entre Lorient et Reims.
Nul.
Clermont-Brest, le dernier match de 15h. Hein, donc, voilà, Brest, c'est l'une des équipes en forme de ce championnat. Hein, donc, qui est sur 4 victoires et 2 nuls. Sur les 6 derniers matchs. De l'autre côté, on a Clermont on va dire, c'est peut-être le moins nul des relégables, même si elle est dernière, elle a quand même sur les 3 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et une défaite. Donc notamment, voilà, une défaite face à Lille, hein, qui était juste trop forte pour Clermont. Pareil, Thibaut, Clermont, Brest.
Ouais, moi je dirais ouais, logiquement Brest, je dirais Brest, petite victoire de Brest. Vu les derniers matchs que j'ai vus de Brest, des 2 matchs contre le PSG, ça joue bien, ils sont pas en haut du classement pour rien. Et je pense qu'ils vont aller là-bas à Clermont et qu'ils vont leur mettre une petite raclée. Et puis voilà, ils vont partir avec les 3 points, tout simplement. Voilà, moi je vois pas Clermont. Je vois pas Clermont poser des problèmes à Brest, en tout cas. Enfin, c'est mon avis. Voilà. Ça va être simple et concis. Brest. Tonnerre de Brest.
Castel là. Vas-y, Baptiste.
Pareil, Brest est bien trop cohérent. On l'a encore vu au parc. Contre Nice, c'est bien trop cohérent pour Clermont qui, pour moi, a un petit peu renoncé. Enfin, je le vois comme ça. Quand tu prends 4-0, puis surtout la manière dont ils ont perdu, ça allait très vite en première mi-temps contre Lille. On voit une équipe qui a un petit peu baissé les bras. Alors, est-ce que c'est définitif ou pas? Mais ouais, Brest trop cohérent, ça presse trop bien. C'est gênant avec Mounier qui peut jouer long. Ils sont capables de jouer long, ils sont capables de jouer court. Des joueurs complètement concernés. Et là, ils sont en train de faire la saison de leur histoire. Donc, non, trop cohérent. Je sais pas si c'est une raclée, mais je vois une victoire facile de Brest.
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur ce match-là, hein. Même si Clermont, voilà, ils essayent, ils se battent, enfin, pour moi personnellement, je pense pas qu'ils soient encore perdus, hein. Il y a encore de la marge, puisqu'au final, ils sont à 15 points, ils sont qu'à 5 points de Toulouse, qui est 13e, donc ça peut aller très vite. Mais pour la marge va être beaucoup trop pour eux, et moi je vois un 2-0 facile pour Brest, quoi. Dernier match, Montpellier-Lyon. Ce match, par contre, pour moi, il sera un peu plus serré parce que tu as quand même un Montpellier qui est sur une très mauvaise forme. Donc, c'est quand même sur les 3 derniers matchs, 2 défaites et un nul en Ligue 1, qui est actuellement 12e avec 20 points. Et derrière, tu as un Lyon qui est en pleine bourre où, voilà, bon, elle a fait 2 défaites et une victoire sur les 3 derniers matchs. Mais si tu prends sur les 6 derniers matchs, c'est 4 victoires. et deux défaites, dont une belle victoire face à Marseille. Lyon qui a beaucoup recruté, hein, qui allait chercher des joueurs un peu partout, comme on l'a dit, qui s'est qualifié face à Monaco, Lille pardon, et qui est 15e actuellement avec 19 points, hein, donc qui a un point de Montpellier qui est 12e. Voilà, Thibaut, toi, Lyon, tes pronos. Mais Lyon, on le perd toujours. Vas-y, vas-y, tu commences. Je te jure, il dort à moitié.
Ah, pardon, purée, je parlais dans le vide. Oui, non, non, je disais que Lyon, c'était du beaucoup mieux. Il y avait du mieux, il y a du mieux chez nos amis lyonnais. Et d'ailleurs, je suis très content de les voir comme ça. Deux victoires, des belles victoires contre Marseille et contre, si je me trompe pas, c'était quelle équipe les autres là? C'était tac tac tac. Je re-regarde, excusez-moi.
Ils ont gagné contre Lille en Coupe de France.
Voilà, Lille et Marseille, voilà, donc parfait. Donc là, ils jouent Montpellier, ils sont en pleine confiance. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas aller gagner là-bas. Moi, je vois bien une petite victoire de Lyon à l'arraché, pareil, la casette 1-0, jamais 203, et qui sortent un peu de la zone dangereuse, même s'ils sont sortis, hein, ils y sont pas, mais bon, ils sont pas loin. Moi, j'aime bien le nouvel entraîneur. Pareil, c'est sage, c'est cohérent. Pareil, ce qu'il fait. Après, je sais pas si eux, c'est mental ou pas, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir une, enfin, c'est une seconde vie, on dirait qu'ils font. Ils jouent pas pareil, c'est complètement fou cette équipe. Mais bon, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Mais je vois bien Lyon aller gagner là-bas, ouais. Pour suivre leurs bons deux derniers matchs, voilà. Donc Lyon 1-0, petite victoire à Montpellier.
Et toi, Baptiste?
Ouais, moi aussi je vois plutôt Lyon et comment dire, moi qui étais assez critique dans un premier temps sur leur recrutement en janvier, comme quoi faut attendre et faut des fois un peu voilà être un peu plus patient que je l'ai été. Je trouve que leur recrutement est en fait bien plus cohérent que ce que je pensais. Ils ont ramené beaucoup de qualité. Là, j'ai vu Orban un petit peu
Orban, très bon, ouais.
contre Lille. Ouais, j'ai vu Orban, Matic qu'il apporte au milieu, le calme, la technique. Il fait beaucoup de bien même à un Cacré que je trouvais complètement perdu. Donc des fois, ouais, à pas avoir les conclusions hâtives que je m'étais faites, peut-être que on va voir sur du long terme, mais voilà, peut-être pas avoir les. Je vais peut-être revenir sur mes conclusions hâtives. Et ouais, je vois beaucoup de qualité, même un Nua Mas, je trouve que c'est les deux derniers matchs là, ce qu'il apporte, bah il transfiguré parce que l'équipe a plus technique, fait beaucoup mieux tourner la balle. Voilà, bah, quand tu amènes des joueurs de qualité, tout de suite ça se voit. Donc ouais, sur la dynamique, je verrais Lyon aussi. Montpellier c'est très compliqué. On voit comment Derzakarian, on a l'impression qu'il a un peu perdu le fil de son équipe. On voit une équipe très très nerveuse. Je sais pas, moi aussi je vois un match compliqué, mais au final la qualité lyonnaise pardon l'emportera quoi.
Au
Ouais,
forceps,
pareil. Ouais, mais c'est ça, c'est que là je trouve que Montpellier ils ont perdu un peu quand même le fil et ils étaient un peu en dilettante dans cette première partie de saison où ils étaient au milieu de tableau, ça leur convenait, mais voilà, ouais, là c'est un championnat à 18, on voit que d'un coup tu peux passer du milieu de tableau à relégable et très vite remonter vers les 7e, 8e, 7e, 6e place. Et je trouve que Montpellier, ils ont pas encore pris
Non, mais je crois que c'est un problème. Montpellier, c'est un problème de coach. Ils ont pas le, il n'arrive pas à amener comment, cet élan qu'ils avaient l'année dernière un petit peu. Là,
C'est
ils ont, j'ai
ça.
l'impression que ça a dit, il est à bout de souffle, Derzakarian. J'ai l'impression qu'il a plus d'idées, plus de. Alors, si devant, ils ont le petit, comment, le petit attaquant qui est pas mauvais, là, comment il s'appelle? Puis j'ai oublié son
Adams?
nom. Adams devant, voilà, qui peut faire des différences,
Ouais, et encore
mais
quoi.
encore.
Ouais,
Non, c'est
ça
surtout
a un peu freiné.
Savani. C'est surtout
Ouais,
Savani
ouais.
qui tient l'équipe, hein.
Ouais, et puis même, mais là, je le trouve beaucoup moins bien. Bah, toujours, bon, il s'énerve tout le temps et c'est quand même un peu. Je trouve qu'après, il fait un peu plus de mal à l'équipe que de bien au final. Et globalement, ça fait partie des deux équipes où que j'ai un peu peur pour eux là en fin de saison, que ça soit c'est Nantes et Montpellier, c'est les deux équipes qui me font très très peur, qui me font très très peur. Alors, Metz et Clermont, je les vois vraiment vraiment, je les vois vraiment dans la charrette, sincèrement, parce que je trouve qu'ils manquent de qualité concrètement. Et je verrais bien une équipe entre Montpellier et Nantes qui se joue le barrage. Mais bon, je fais des prédictions sur plus tard, mais c'est deux équipes qui m'inquiètent. Ouais, Montpellier en fait partie. Et bon courage à Der Zakarian pour trouver la solution, parce que elle coule pas de source.
Non, mais je suis d'accord, là, quand tu regardes la forme des deux équipes et que tu compares un peu les autres équipes qui sont dans le même lot, là, que ce soit Toulouse, Lyon, même Lorient. Lorient, tu sens que, voilà, il y a quelque chose. Alors, on sait pas si ça va être sur le long terme de la saison, tu vois, mais tu sens qu'il y a quelque chose en plus. Mais Montpellier, je trouve que c'est, ouais, c'est voilà, ça s'essouffle. Et ouais, je pense que Lyon va gagner. Lyon va gagner. Allez, je suis même pas sûr qu'ils vont prendre un but. Je vois un 2-0 pour Lyon, quoi. Ouais.
Ouais.
Bah, merci messieurs de m'avoir accompagné,
Ouais.
hein,
Ouais.
pour ce podcast, pour cette belle journée, hein. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de buts dans cette journée, hein, parce qu'il y a quand même des matchs qui sont assez équilibrés et pas mal d'oppositions, surtout entre des équipes qui peuvent, voilà, certaines qui peuvent remonter, d'autres qui peuvent se mettre en danger. Dans tous les cas, merci à vous de nous écouter, d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à réagir, à nous suivre sur l'ensemble des plateformes, sur nos réseaux sociaux, que ce soit X, Fred, Instagram, etc. On est sur toutes les plateformes d'écoute,
Spotify.
Spotify, Apple Music, Deezer. Et donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée de Ligue 1. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 23e journée de Ligue 1, notamment le PSG aura joué son match de Ligue des Champions, ce qui peut être très intéressant. Bonne journée de
Ainsi
Ligue 1
que les
dans
équipes
le.
européennes, hein. Ainsi que d'autres équipes européennes. Ouais, il y
Ainsi
aura
que d'autres
les
équipes
barrages.
européennes, c'est vrai.
Il y a Lens, il y a Marseille qui joue. Il y a, attends, rappelle-moi, je crois qu'il y en a d'autres, hein, qui
Lille ne
doivent
joue
jouer.
pas parce qu'ils sont déjà qualifiés.
Exactement. Rennes qui joue,
Ouais.
qui joue leur barrage aller. Donc non, ça va être très très intéressant
Ouais.
de voir les après-rencontres européennes, quoi. Donc non, ça peut être très intéressant. Ouais. T'as
Tout à
raison de
fait
le
d'accord.
signaler.
Tout à fait d'accord. Dans tous les cas, merci à vous, messieurs, de m'avoir accompagné et je vous
Bah.
souhaite un très bon week-end, comme
Messieurs, bonne
d'habitude.
soirée. Merci à toi. Ciao, bonne
Meilleure
soirée les
chance.
gars.
Bonne
Bisous à
soirée
tous.
à vous et bonne soirée à vous, les auditeurs, et bon week-end de foot dans le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Oh.